À notre émission Libre-Échange, aujourd'hui, on va parler d'abolition de commissions scolaires et de modifications qu'on veut amener à la gestion de nouveaux centres de services. On va les appeler ainsi. Alors, c'est la proposition du projet de loi 40 par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. On était en phase de commission parlementaire où donc plusieurs commissions scolaires de toute la province se sont prononcées. Et chez nous aussi, les commissions scolaires de la région et de l'Est du Québec. Et la présidente du regroupement des commissions scolaires Reste du Québec est avec nous, Francine Cyr. Bonjour.
Bonjour.
Alors, ce dossier de l'abolition des commissions scolaires, on dit ça ici, là, mais bon, ce changement au niveau des commissions scolaires et de la gestion fait beaucoup jaser avec le projet de loi 40. Les commissions parlementaires où la commission vient de se terminer, en soi, ça propose d'abolir les commissions scolaires pour créer des centres de services et aussi l'élimination des élections scolaires, des conseils, des commissaires pour aller plutôt avec des nominations sous forme de conseils d'administration. Alors, c'est un peu ça qu'on propose, là. À ce moment-ci?
Le conseil des commissaires va être remplacé par un conseil d'administration. Le conseil des commissaires, présentement, comme de raison, c'est lui qui fait la gestion de la commission scolaire. Okay? Il est composé d'élus scolaires, okay? Donc des gens qui viennent de la communauté, qui sont élus aux 4 ans. Et vous avez aussi des parents commissaires, un parent commissaire qui représente le secondaire, un parent commissaire qui représente le primaire et un parent qui représente les élèves EHDA. Okay? Donc, c'est comme ça qu'est formé un conseil des commissaires. Donc, tous des élus de la communauté.
OK. Et ces élus-là sont ni plus ni moins rémunérés aussi, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Si on dit que, bon, le gouvernement veut sauver de l'argent avec ça, je pense pas. Hein? Ce n'est pas des chiffres énormes, là, lorsqu'on parle de la rémunération.
Non, tout à fait. Non, tout à fait. C'est vraiment des rémunérations.
Payer les déplacements, quoi?
Oui, payer les déplacements, le temps aussi, parce que le ministre laisse miroiter qu'il y aura très peu de rencontres, etc. Mais par expérience, ça fait 19 ans que je suis dans le réseau et c'est tout à fait faux parce que ça demande énormément d'implication, je dirais aussi de représentativité dans la collectivité, auprès de nos partenaires, etc. Oui. Alors, les chiffres qui sortent sont vraiment irréalistes quand on nombre de rencontres que ça demande.
Ouais. Juste par curiosité, combien ça gagne un commissaire, à peu près, en moyenne?
Mais je dirais entre 5 et 7 000 par année.
Oui, c'est ça.
Une présidente un petit peu plus, là, aux alentours d'une quinzaine de mille environ.
OK.
C'est puis, des chiffres qui sont publics.
Le gouvernement, d'ailleurs, base aussi son argument sur le fait que, les commissions scolaires, les élections, il n'y a pas de participation. C'est souvent le même monde qui sont réélus, souvent les mêmes gens qui sont là depuis des années, qui sont réélus par acclamation, ni plus ni moins. Mm-hmm. Alors, on se dit qu'on veut aussi éliminer ça pour ces raisons-là.
Cet argument-là est tout à fait, inconcevable. Parce que à cause d'un faible taux de participation, on vient d'enlever un droit démocratique au Québec, un droit de parole des citoyens. Donc, c'est tout à fait farfelu de faire cette corrélation-là entre ces deux éléments. C'est comme si demain matin, on vous disait, écoutez, au niveau municipal, il y a beaucoup de maires ou de conseillers qui sont élus aussi par acclamation, puis est-ce qu'on va aller abolir ce palier démocratique-là? Non, jamais. Pourquoi on remet en question l'existence, la gouvernance des commissions scolaires et on ne remet pas en cause les autres paliers démocratiques? Fait que c'est vraiment un argument là qui ne tient pas la route du tout.
OK, puis là, on remplace ça par un conseil d'administration.
Oui.
Qui serait composé avec une composition différente là, par rapport
au... Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est un conseil d'administration, en fait, qui va être en majoritairement, Ça va être un conseil d'administration qui est composé majoritairement de parents, donc beaucoup plus de parents. D'ailleurs, c'est aussi une aberration de ce projet de loi, c'est que il faut falloir être parent pour siéger un conseil d'administration. Donc, il y a des parents qui est leur majorité, puis il y a aussi des gens, qui vont être de la collectivité, qui vont représenter certains profils. comme par exemple un profil culturel, un profil sportif, un profil communautaire, etc. Le conseil d'administration qui va être composé majoritairement de parents, qui va être élu, ces parents-là, par les membres des conseils d'établissement des écoles. C'est comme ça que les parents qui vont siéger au conseil d'administration vont se retrouver là. Donc, il va avoir une petite nomination à l'interne. C'est vraiment pas une bonne idée parce que on sait un petit peu comment ça fonctionne, les conseils d'administration. On a tous des fois siégé à des conseils d'administration. C'est que je vais vous donner les désavantages, quelques désavantages que nous on y voit, puis et c'est très dangereux. Un conseil d'administration, en fait, compte, là, ça a pas besoin de rendre compte à personne, hein. Il gère un établissement, puis il n'a pas de compte à rendre au niveau public. Le conseil des commissaires, c'est le contraire. Nous avons l'obligation, parce qu'on est des élus scolaires, un peu comme pour la municipalité, de rendre compte de nos actions. Mm-hmm. OK? Donc, ça, c'est très dangereux. Moi, comme en étant présidente aussi, je suis porte-parole de la commission scolaire. Donc, s'il nous arrive des directives du ministère sur lesquelles on n'est pas d'accord, j'ai un droit de parole qui me permet publiquement d'aller contester ou d'aller argumenter les directives qui nous arrivent du ministère. Avec la nouvelle formule, le conseil d'administration n'a pas de porte-parole. C'est la directrice générale ou le PDG qui va se retrouver là, qui lui devient porte-parole. Mais vous comprenez que lui, il a un lien direct avec le ministre. Donc, il a un droit quand même de réserve. Évidemment, il n'ira pas comme contredire sur la place publique des visions ou des éléments que le ministre pourra amener.
Oui, par rapport d'ailleurs au projet de loi, on parle souvent de l'article 310, là, qui dit que le gouvernement peut prendre par règlement toute mesure utile à l'application de la présente loi.
Oui, tout à fait. C'est de la centralisation de pouvoir. Puis c'est ça qui est très dangereux, c'est que le ministre laisse miroiter que les conseils d'établissement dans les écoles vont avoir du pouvoir, puis c'est eux autres qui vont gérer leur gestion. Mais c'est tout à fait faux, parce que les pouvoirs du conseil d'établissement, si vous regardez dans le projet de loi, il est très limité, parce que tout est conventionné. Tu sais, les programmes du ministère sont conventionnés, les conventions collectives des employés sont conventionnées. En fin de compte, ce qui se cache derrière cette loi-là, c'est tout simplement le ministre qui veut avoir vraiment une centralisation des pouvoirs. Il se donne des pouvoirs extrêmement importants de décider de tout, puis d'envoyer les directives directement dans les écoles. Donc, ça, nous, on trouve ça extrêmement dangereux, parce qu'on aura comme plus grand chose à dire. Puis c'est, moi, je trouve que c'est enlever aussi le droit de parole de la communauté de se positionner sur des éléments qui sont importants pour eux en éducation, pour leurs enfants. Donc, je trouve qu'on enlève un droit de parole des parents, et c'est vraiment dangereux. On compare beaucoup la loi 40 à ce qui se fait actuellement, ce qui s'est fait actuellement dans le réseau de la santé avec la réforme Barrette. Donc, qui a donné des maux de tête, puis qui n'a pas été un succès. Donc, un ministre qui veut tout centraliser, les pouvoirs qui lui sont conférés, puis qui ne veut rien déléguer.
Autre point, lorsqu'on parle de ces modifications dans le projet de loi 40, donc on parle de commissions scolaires qui deviendraient des centres de services. On a l'impression que administrativement, ça se ressemble pas mal, j'imagine, là. On a déjà voulu fusionner des commissions scolaires. Là, on veut créer des centres de services. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a encore des dangers, selon vous, de fusionnement après avoir créé ces centres de services?
Ben oui, tout à fait. Quand on sait que dans la loi, le ministre se donne le pouvoir de fusionner des territoires, mais aussi fusionner des services. Donc, on y voit là quand même un côté dangereux de la loi, parce que ça voudrait dire, par exemple, que le ministre pourrait fusionner des services entre nos régions, donc Gaspésie et les îles, ou encore ce qui fait en fait compte que au niveau de la mobilité du personnel, ça pourrait mettre en jeu cet aspect-là. Donc, nous, c'est quand même inquiétant. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de fusion de services, le fait que les commissions scolaires vont se transformer en centres de services, On n'y voit pas pratiquement de perte d'emploi parce qu'on sait que autant chez vous que chez nous, on a des effectifs du personnel qui sont réduits, je dirais, au minimum. Donc, on voit pas de perte d'emploi à court terme. Mais par contre, quand on parle de fusion de services, oui, là, ça pourrait être dangereux parce qu'ils pourraient, par exemple, fusionner la taxe scolaire pour qu'elle soit perceptible à un endroit seulement, autant en Gaspésie ou aux îles. Alors ça, ça peut être aussi très, très questionnable. Donc, à ce niveau-là, quand on parle de fusion de services, on peut parler peut-être de possibilité de perte d'emploi.
On va faire une pause et on va revenir dans un petit moment avec Francine Cyr pour poursuivre notre entretien.